VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du mardi 14 mars 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, deux experts étrangers de l'ONU et quatre citoyens congolais ont été enlevés au Kasaï central.
Aux Nations Unies à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU troublé par des informations faisant état de tortures et d'enlèvements au Burundi.
Au Mali, cinq personnes, deux soldats et trois civils, ont été tués dans une attaque dans la région de Gao.
Ici aux États-Unis, le Bureau du budget du Congrès publie son rapport tant attendu sur le plan des Républicains pour remplacer le programme d'assurance maladie de l'ancien président Barack Obama.
Le secrétaire d'État Rex Tillerson à Tokyo, Séoul et Pékin du 15 au 19 mars. Sa mission, éviter que les programmes balistiques et nucléaires de la Corée du Nord ne déclenchent une guerre.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Deux experts des Nations Unies, un Américain et un Suédois, ainsi que leurs quatre accompagnateurs congolais, ont été enlevés au Kasaï central, à 120 km de la ville de Kananga. La MONUSCO, qui confirme cette information, dit ne pas disposer de plus d'éléments sur les ravisseurs et leurs exigences, et le gouvernement congolais a annoncé l'ouverture d'une enquête. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Selon les informations recueillies sur place et confirmées par la MONUSCO et le gouvernement, ces deux experts de l'ONU, accompagnés de quatre citoyens congolais, ont été kidnappés à 120 km de la ville de Kananga, sur l'axe Bokonde-Chimbulu, par un groupe armé non autrement identifié. D'après Charles Bambara, le responsable de l'information publique de la mission de l'ONU en RDC, ces deux employés des Nations Unies, de nationalité américaine et suédoise, travailler pour le groupe des experts en RDC chargé par le Conseil de sécurité d'enquêter sur les groupes armés, les violations des droits de l'homme et les possibles violations d'embargo sur les armes. Ils ont donc, dans le cadre de cette mission, loué trois motos à Kananga et pris la direction de Chimbulu avant de tomber sur cette embuscade. Lambert Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement, souligne que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, présent à Kananga, travaille actuellement pour identifier ce groupe armé et obtenir leur libération. Car pour le moment, ni la MONUSCO, ni le gouvernement ne disposent des informations fiables sur le lieu où ils sont gardés, ainsi que sur l'identité et les exigences des kidnappeurs. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit troublé lundi par des informations faisant état de torture et d'enlèvement au Burundi. Le Conseil a toutefois ignoré les appels d'organisations de défense des droits de l'homme à imposer des sanctions. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Une déclaration à l'initiative de la France a été adoptée à l'unanimité après quelques ajustements avec la Russie, la Chine et l'Égypte qui s'opposent aux sanctions. Le Conseil de sécurité a appuyé la proposition du médiateur Benjamin Mkapa, ancien président tanzanien, de tenir un sommet régional afin d'inciter le gouvernement burundais et l'opposition à ouvrir des négociations. Les 15 États membres ont exhorté le gouvernement de Bujumbura à signer un accord avec l'Union africaine pour le déploiement d'observateurs des droits de l'homme et d'experts militaires dont seule une poignée ont été autorisés dans le pays. En juillet, le Conseil avait autorisé le déploiement d'au moins 228 policiers de l'ONU au Burundi pour surveiller la situation sécuritaire et les atteintes aux droits de l'homme, mais le gouvernement a bloqué le déploiement de cette force. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est déclaré très préoccupé par les déclarations du président Nkurunziza au pouvoir depuis 2005, suggérant qu'il pourrait demander un quatrième mandat. Une telle initiative risquerait d'intensifier la crise, avait estimé M. Guterres dans son rapport au Conseil de sécurité le mois dernier.
Au Mali, cinq personnes, deux soldats et trois civils, ont été tuées dans une attaque dans la région de Gao. L'attaque a eu lieu dans la localité de Fafa, cercle dans Songo. Les assaillants sont partis avec deux véhicules de l'armée, nous dit de Bamako Kassim Traoré.
Fafa est le fief des groupes armés, situé à 60 km au sud d'Ansongo. Elle a été la cible d'une attaque djihadiste. Des hommes armés non identifiés ont profité de la foire hebdomadaire de cette localité, située entre l'Abezanga, frontière nigérienne, et Ansongo, pour troubler la quiétude des habitants de Fafa. Ces groupes armés non identifiés ont essayé d'attaquer un détachement des Fama en patrouille dans cette localité. La foire hebdomadaire a été sérieusement perturbée. Ça a été un véritable sauve-qui-pue. Suite à cette attaque terroriste, le bilan provisoire fait état de 5 morts, dont 2 militaires et 3 civils, plusieurs blessés et 2 véhicules de l'armée malienne emportés. Tout cela sans compter les dégâts matériels pour les commerçants et autres usagers de la petite foire hebdomadaire. Dans la foulée de cette attaque, l'armée malienne a envoyé les renforts afin de stabiliser la situation, maintenir la sécurité et rassurer les populations de Fafa et environnants. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Soudan du Sud, des rebelles armés ont enlevé 8 employés locaux d'une organisation. D'abord, parlons de l'ancien premier ministre nigérien Mahamadou, qui a été condamné à 1 an de prison ferme à Niamey dans l'affaire du trafic de bébés. Toujours en France, il n'a pas assisté à son procès. Une trentaine de personnes sont impliquées dans cette affaire. Nous avons les précisions avec Abdourazak Idrissa, notre correspondant à Niamey.
Les 3 juges de la cour d'appel ont requalifié les faits reprochés à Mahamadou. Il a ainsi été condamné à 1 an de prison ferme pour recel d'enfants et non-supposition de bébés. Pour un de ses avocats, c'est une parodie de justice. Maître Mossi Boubacar.
Nous sommes retirés ce matin parce que nous étions convaincus qu'ils allaient rentrer dans une logique de condamnation. C'est pour cela qu'il est venu. La bonne preuve, c'est que vous avez vu la camionnette qui était là, garée, stationnée pour prendre les gens. S'il n'y avait pas une décision qui était déjà prise à l'avance, comment pouvait-on savoir que ces gens-là seraient arrêtés?
La cour n'a cependant pas émis de mandat de dépôt pour Mahamadou, qui se trouve en France et qui avait déjà passé 4 mois enfermé dans le cadre de cette affaire. Les nombreux militants de son parti politique qui étaient à la cour d'appel de Niamey ont scandé des slogans comme « Abat la justice ». Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le Soudan du Sud maintenant. Des rebelles armés ont enlevé 8 employés locaux d'une organisation caritative américaine. Ils exigent de l'aide humanitaire en guise de rançon, selon un porte-parole militaire sud-soudanais. Les rebelles, eux, qualifient de propagande le terme de kidnapping employé par le gouvernement. Précision de Jacques Aristide.
L'enlèvement a eu lieu dans une localité des environs de Mayendit, à 680 km au nord-est de la capitale Juba, d'après le général Lul Ruai Koeng. Les rebelles ont lancé une attaque samedi et kidnappé ses 8 employés sud-soudanais de l'ONG Samaritan's Purse, a-t-il indiqué à Reuters hier, et d'ajouter qu'ils les détiennent en attendant qu'une rançon leur soit fournie. Selon le général Koeng, ils ont demandé à l'ONG de leur livrer de l'aide. Toutefois, dans une déclaration à l'Associated Press, Mabi Garang, qui se présente comme un porte-parole de l'opposition, affirme que ces travailleurs humanitaires ont été, je cite, « récupérés par nos forces après de lourds combats avec des forces ennemies ». Fin de citation. Pour sa part, l'organisation caritative a confirmé l'enlèvement, mais a démenti qu'une rançon lui ait été demandée. L'ONG affirme avoir été en contact avec ses employés qui n'ont subi aucune blessure, dit-elle. Nous espérons qu'ils seront libérés rapidement et de manière saine et sauve, ajoute Samaritan's Purse. Le Soudan du Sud est en proie à une guerre civile depuis le conflit survenu en 2013 entre le président Salva Kiir, de l'ethnie des Dinka, et son vice-président Riek Machar, de l'ethnie des Nouer.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le CBO, le bureau du budget du Congrès, estime que 14 millions d'Américains perdront leur couverture médicale l'année prochaine si le Congrès adopte le plan des Républicains pour remplacer l'Obamacare. Ces 14 millions seront, conclut-il, 52 millions d'ici à 20 000 à 2026, soit 2 fois plus que ceux qui n'auraient pas d'assurance si le programme d'assurance maladie de l'ancien président restait en place.
Le CBO, une entité non partisane, a publié hier son rapport et souligne que le nouveau plan des Républicains réduirait de 337 milliards de dollars les déficits budgétaires fédéraux d'ici à 2026.
Par ailleurs, plusieurs États démocrates ont accentué hier leurs efforts judiciaires visant à suspendre le nouveau décret migratoire du président Donald Trump, de préférence avant son entrée en vigueur prévue jeudi. L'État de Washington, joint par 5 autres États, a de nouveau saisi lundi un juge de Seattle qui, le 3 février, avait bloqué le premier décret migratoire du président. Dans un mémoire en juge de Hawaï, l'administration Trump a soutenu que les restrictions d'entrée aux États-Unis de certains types d'étrangers relevaient de l'exercice valide de l'autorité présidentielle, conformément à la loi.
Et puis le président Trump dépêche en Asie son chef de la diplomatie, Rex Tillerson, pour tenter de régler leur première crise internationale, éviter que les programmes balistiques et nucléaires de la Corée du Nord ne déclenchent une guerre. Le nouveau secrétaire d'État est attendu à Tokyo, Séoul et Pékin du 15 au 19 mars, 10 jours après que le régime de Kim Jong-un a tiré au moins 4 missiles balistiques en direction du Japon.
Tempête de neige dans le nord-est des États-Unis après un hiver inhabituellement clément. La ville de New York et le nord-est des États-Unis affrontent aujourd'hui la plus grosse tempête de neige de la saison, avec près de 60 cm de neige attendue en certains endroits. La rencontre entre Donald Trump et la chancelière allemande Angela Merkel, prévue ce mardi à Washington, a été reportée à vendredi en raison de cette tempête.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Au Cameroun, plus de 2,5 milliards de francs CFA ont été débloqués par le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural pour subventionner 27 coopératives agricoles. Ce projet est également financé à hauteur de 50 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, une initiative qui vise à booster la production de maïs, du sorgho et du manioc. Les producteurs de coton burkinabé et Monsanto sont parvenus à un accord sur les OGM, selon l'agence Reuters. Un litige opposait la firme américaine et les producteurs du Burkina sur l'introduction de variétés génétiquement modifiées accusées de faire baisser la qualité du coton. Les producteurs réclamaient 48 milliards de francs CFA en compensation. Finalement, un accord a été trouvé sur la division des redevances. Les producteurs en garderont 75%, les 25% restants revenant à Monsanto. La Banque mondiale va accorder 50 millions de dollars à la RDC. Selon Financial Afrique, l'objectif est de permettre une meilleure performance et une bonne résilience de l'économie congolaise. Plusieurs grands chantiers sont au programme, dont la création de camps d'apprentissage pour les jeunes, la réforme des finances publiques et le renforcement du système fiscal, ainsi que l'amélioration de la pacification du pays pour susciter plus d'investissements étrangers.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Malawi jette l'éponge pour la CAN 2019.
Le pays ne participera pas aux qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019, faute de moyens financiers suffisants. La fédération de ce petit pays d'Afrique australe explique que pour les mêmes raisons, le Malawi ne disputera pas non plus les éliminatoires du CHAN 2018, cette compétition réservée aux joueurs locaux. Le gouvernement du Malawi est le seul pourvoyeur de fonds de la fédération depuis le retrait pour cause de mauvaise gestion de ses derniers partenaires privés locaux. Les Flammes du Malawi sont aussi sans sélectionneur depuis la fin de l'année dernière et le licenciement de l'entraîneur burundais Ramadan Sansurwimo.
Huitième de finale retour de la Ligue des Champions ce mardi.
Victorieuse 2-0 à l'aller, la Juventus Turin est très bien placée pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions au moment de recevoir Porto tout à l'heure. Dans l'autre rencontre de la soirée, Leicester reçoit Séville après s'être incliné 2-1 à l'aller. Les Andalous disposent donc d'un léger avantage.
L'Atlético Madrid casse sa tirelire pour son nouveau stade.
Oui, le club et la mairie de la capitale espagnole sont parvenus à un accord pour l'achat du stade de la Peneta par le club rouge et blanc pour un montant de 30 millions d'euros. Le stade sera officiellement utilisé à partir de la saison prochaine sous le nom de Wanda Metropolitano, d'après le nom du conglomérat chinois Wanda, qui possède une partie du club.
La Russie a encore beaucoup à faire en matière de dopage.
L'agence antidopage russe, la RUSADA, suspendue depuis 2015, a encore beaucoup à faire pour que sa suspension soit levée. C'est ce qu'a assuré hier Craig Reedy, le président de l'agence mondiale antidopage, qui avait mis en lumière un dopage d'État en Russie. Même si des progrès ont été accomplis, la RUSADA doit démontrer que les processus engagés sont autonomes et indépendants de toute ingérence extérieure, a ajouté M. Reedy. Enfin, Trissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Chicago et Charlotte 115-109, Dallas et Toronto 78-100, Milwaukee et Memphis 93-113, Atlanta et San Antonio 99-107, Washington et Minnesota 104-119.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'Afrique du Sud et le Nigeria ont convenu de la création d'une plateforme de dialogue pour contenir les tensions xénophobes. La mesure a été annoncée lundi à l'issue d'une rencontre à Pretoria entre la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Maite Nkoana Mashabani, et son homologue nigérian, Jeffrey Onyama, à Pretoria. Ce centre d'alerte nous permettra de nous tenir mutuellement au courant des problèmes et de prévenir les éventuelles violences, a annoncé la chef de la diplomatie sud-africaine. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de Marc Gbafou, président du Forum de la diaspora africaine en Afrique du Sud.
Depuis les attaques, le Nigeria a été le seul pays qui s'est annoncé et qui a condamné les attaques et qui a demandé au gouvernement sud-africain de prendre les mesures nécessaires pour protéger les biens et les vies humaines ici. Ça, c'est très important. Et je crois que le Nigeria a aussi approché l'Union africaine pour dire qu'il souhaiterait que l'Union africaine intervienne pour protéger les biens ici, parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'on parle de ces attaques-là sur les migrants qui vivent ici. Donc c'est un suivi de toutes ces démarches-là.
Alors l'Afrique du Sud et le Nigeria ont annoncé la création d'une plateforme de dialogue au sujet de cette situation. Quelle est votre réaction?
On pense que c'est une bonne plateforme. On salue la création de cette plateforme. Seulement, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on sait comment est-ce que le sujet des attaques sur les migrants ici, pratiquement depuis 2008, ce sujet a été traité par le gouvernement sud-africain. On se demande, est-ce que ce serait avec une franchise que le gouvernement sud-africain va travailler sur cette plateforme? Parce qu'on sait que le gouvernement sud-africain est en train d'entretenir un flou sur la question, parce que ou bien on se rend compte que notre peuple est xénophobe et donc pour ne pas perdre ses voix lors des élections prochaines de 2019, il faut entretenir la chose, de faire croire que non, mais tu es aux côtés de la société civile qui se plaint des migrants et qui ne veulent même pas que les migrants vivent ici. En même temps, il faut protéger les intérêts bilatéraux qui existent entre les pays. On ne souhaiterait pas, parce que nous, on se dit que quand les attaques se passent, on perd des vies humaines. Et ce serait dommage qu'on fasse des jeux alors que les gens perdent leur vie.
Un rapport de l'Institut sud-africain des relations raciales note que les immigrants en Afrique du Sud réussissent à se faire une situation en dépit de tous les problèmes et que les Sud-Africains devraient plutôt apprendre de ce succès des immigrants. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, ça, c'est une recherche qui a été, depuis plusieurs années, qui a été faite ici en Afrique du Sud. Le Houghton City Region a fait une recherche pour dire qu'on a dû remarquer que les migrants, quand ils créent des emplois, ils embauchent les Sud-Africains. Mais seulement, c'est parce que le gouvernement ne voulait pas faire attention à ça, que ça n'a pas été pris au sérieux. Ça, nous, on le savait.
Marc Gbafou, président du Forum de la diaspora africaine en Afrique du Sud, joint à Johannesburg. La Côte d'Ivoire a commémoré hier le premier anniversaire de l'attaque du 13 mars 2016 contre la ville de Grand Bassam. Une attaque perpétrée par des terroristes, des djihadistes, qui avaient pris pour cible des hôtels de cette cité balnéaire. Officiellement, on a dénombré 19 morts et 33 blessés. Notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, a assisté à cette commémoration.
C'est sur les lieux mêmes du drame, à quelques encablures de la plage et juste en face de l'Étoile du Sud, l'un des hôtels pris pour cible par les terroristes, que s'est déroulé l'hommage de la Côte d'Ivoire aux victimes du 13 mars 2016. Il est 12h45 quand le vice-président Daniel Kablan-Duncan, accompagné du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, arrive sur la place de la cérémonie. Daniel Kablan-Duncan dépose non loin de la mer une gerbe de fleurs en hommage aux 19 morts de mars 2016. Pas d'allocution à l'endroit de l'assistance, juste quelques mots aux journalistes. Le vice-président salue la résistance du peuple ivoirien.
Je suis heureux de constater qu'un an après, Bassam est debout, que les gens ne se sont pas laissés abattre par cette attaque terroriste lâche, mais que la vie revient, que quelle que soit la situation difficile dans laquelle on peut se trouver, il faut apprendre à rester debout, à se battre, et faire en sorte que l'espoir et la vie dominent.
Le ministre de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, se réjouit quant à lui de la bonne coopération entre les services du renseignement des pays de la sous-région. Cela, dit-il, a permis de mettre le grappin sur 38 personnes liées à cette attaque.
Il faut noter une très très grande collaboration entre tous les services de police, les services des forces de renseignement et de sécurité de tous les pays concernés, qui a donné des résultats. Aujourd'hui, grâce aux éléments d'enquête précis de l'attentat de Bassam, nous sommes arrivés à mettre des noms sur la chaîne de commandement qui a conçu et opéré à Bassam.
Les populations du Grand Bassam souhaitent pour leur part ne plus revivre ce genre d'attaque.
Et nous avons été très tristes pendant l'événement. Aujourd'hui, nous faisons ce moment-là pour nous souvenir des personnes qui sont tombées. Et nous nous souvenons toujours, nous allons nous souvenir toujours de ce moment-là.
Nous sommes heureux que nos morts soient honorés. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire, plus jamais ça à Bassam et plus jamais ça dans le monde entier.
Tous les services publics, les écoles, les commerces, le grand marché et les banques sont restés fermés le temps de cette cérémonie d'hommage. Georges Ibrahim Tunkara, Grand Bassam, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Bénin, débat autour de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Certains points clés, comme le mandat unique, dérangent. Pour beaucoup, si l'actuel président a pris sur lui la responsabilité de faire un seul mandat, il ne doit pas l'imposer à ses successeurs. De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur Adondé.
Faut-il réviser ou pas la loi fondamentale du Bénin? Le débat a dépassé cette étape et se retrouve aujourd'hui à remettre en cause certaines subtilités contenues dans les propositions faites par la commission présidée par le ministre de la Justice. Certaines personnes averties disent tout haut que le gouvernement serait en train de tout faire pour contourner une consultation référendaire. Elles voient d'un mauvais œil la possibilité que le projet de révision de la loi fondamentale du Bénin atterrisse sur la table des députés sans passer par le filtre d'un débat public. En clair, beaucoup craignent que les députés pour la majorité acquis à la cause de Patrice Talon aident ce dernier à contourner les contraintes légales d'un recours au référendum. Pour Bob Batio, consultant sociologue, la révision de la Constitution ne saurait passer sans un quelconque débat.
Pour une révision qui se veut juste et objective, il faut la nécessité pour l'élite populaire et les forces vives, à défaut de l'ensemble de la population, de s'en imprégner et d'en discuter afin de retenir les amendements substantiels. Un chef d'État ne peut donc imposer, en complicité avec la majorité gouvernante, sa vision à l'ensemble du pays.
Pour Epiphane Dalokono, au-delà de la révision de la loi fondamentale, il faut penser à inculquer aux Béninois le respect des tests.
C'est dans l'application de nos tests que nous pourrions donc analyser si oui ou non les populations pour lesquelles nous avions retenu ces tests-là, si ces populations se sentent épanouies, se sentent développées.
L'un des points qui dérange certains dans le projet de révision révision de la loi fondamentale, c'est le mandat unique. Pour l'hôte Rouenou du Parti des valeurs républicaines, les Béninois doivent manifester pour bouter hors de ce projet le mandat unique perçu comme le bouclier qui permettra au chef d'État de gouverner sans foi ni état d'âme.
Le mandat unique est à rejeter, à balayer hors de la République. La seule occasion pour les citoyens qui constituent des électeurs pour se venger, c'est le prochain mandat d'un chef d'État en exercice. Dès lors qu'on parle de mandat unique, le peuple n'a plus son pouvoir réel à exercer vis-à-vis d'un élu. Il faut laisser le peuple exercer son pouvoir réel.
Mais le ministre de la Justice persistait s'il ne s'agira pas de remettre en cause tout ce qui existait, mais de rendre plus forte et républicaine certaines dispositions pour un développement harmonieux du Bénin. Joseph Diogbenou.
Nous ne sommes pas dans la réécriture de la Constitution. Nous ne sommes pas dans la fondation d'une nouvelle République. Et donc, nous n'avons pas besoin de considérer les états généraux de la République.
La Constitution, si elle est révisée, elle pourrait contenir les réformes telles que la création d'une Cour des comptes, le rééquilibrage des pouvoirs entre les institutions, la réforme du système partisan et bien sûr la réforme du mandat unique, objet de toutes les récriminations actuellement. Une grande marche est d'ailleurs prévue pour le mercredi prochain à Porto-Novo, la capitale, pour dire non, selon les organisateurs, à une révision taillée sur mesure de la loi fondamentale. De Cotonou, Ginette Fleur-Adondé pour VOA Afrique.
Suite à la discussion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la crise burundaise jeudi, l'ambassadeur du Burundi avait réagi sur les ondes de la Voix de l'Amérique, disant que le rapport de Djamal Ben Omar, conseiller spécial du secrétaire général, alertant sur la situation sécuritaire, était une manipulation de la part des ONG. Nathalie Barge a joint Karine Kaneza, porte-parole du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi, qui n'a pas pu s'exprimer devant le Conseil de sécurité comme prévu suite à un refus de la Russie.
J'avais été invitée officiellement par la mission britannique auprès des Nations Unies et j'ai été informée la veille que finalement la mission russe avait exercé son droit de veto et qu'ils avaient refusé que je m'exprime devant le Conseil de sécurité. Loin de m'arrêter, je suis partie à New York et heureusement, plutôt que de faire une présentation de 10 minutes maximum devant le Conseil de sécurité, la mission britannique a pu faire un enregistrement par vidéo de ma présentation qu'ils ont fait circuler à tous les membres du Conseil de sécurité. Et par après, j'ai eu l'opportunité d'échanger plus longuement avec des représentants et des experts. J'ai eu un entretien avec eux qui a duré d'ailleurs pas mal de temps.
Que pensez-vous de la réaction de l'ambassadeur du Burundi qui a donc déclaré que ce rapport de l'ONU, de M. Ben Omar notamment, était monté de toutes pièces?
Rien de surprenant. Ce qu'il a dit est une émanation du récit actuel du gouvernement burundais, du régime de Bujumbura, qui, depuis le début, a toujours réfuté, a toujours refusé tout rapport, toute opinion contraire à ce qu'il dit. Ce qu'il dit est, à mon avis, prévisible. Donc, on ne devrait même pas s'arrêter à ses dires. Plutôt, je pense qu'en ce moment, on devrait, la communauté internationale en particulier, se pencher sur comment amener le régime de Bujumbura à la table de négociation. Parce que, après tous ces rapports, y compris le rapport du secrétaire général Antonio Guterres, sont des signaux d'alarme.
Quel a été le retour des membres du Conseil de sécurité? Ou autrement dit, est-ce que vous pensez que l'on puisse éventuellement s'attendre à des sanctions de la part de l'ONU?
Ils en parlent, on en parle, on le leur a fait savoir. Nous avons présenté des mesures concrètes. Nous avons fait des recommandations très claires au niveau des sanctions. Nous avons d'ailleurs utilisé l'exemple du premier processus d'Arusha de 2000. Nous avons parlé d'un embargo, nous avons parlé de sanctions ciblées, nous avons parlé de plusieurs actions calibrées au niveau de la région, nous avons parlé du besoin de la région justement au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est de parler d'une seule voix. Maintenant, est-ce qu'ils vont réagir rapidement? C'est notre souhait. Mais de toute façon, ça ne nous arrêtera pas. Nous allons continuer à le leur dire, nous allons continuer à secouer le prunier comme on dit, et puis on verra.
C'était Karine Kaneza, porte-parole du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Okay, 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 ladies, now let's get information.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.